Bonjour et bienvenue dans le débrief mardi 22 novembre 2016, 8 degrés au centre-ville de Victoria. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9, la radio communautaire francophone la plus à l'ouest en Amérique. Au menu de l'émission aujourd'hui, une nouvelle interview de l'artiste de Victoria, Nathalie Leduc, qui nous livre la deuxième partie de sa correspondance américaine dans la foulée de l'élection surprise de Donald Trump aux États-Unis. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers 16h40. Sans plus tarder, on s'offre tout de suite les bulletins quotidiens de notre collaborateur Denis Lépine. Ce sera suivi de la météo détaillée et de bien d'autres infos, dont le radiojournal de l'ONU. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info et de com national, international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, annonce une nouvelle composante de la vision entourant une économie axée sur une croissance propre, soit l'accélération de la transition des centrales au charbon traditionnel vers la production d'énergie propre d'ici 2030. D'après Ottawa, cette composante va permettre d'améliorer davantage la qualité de l'air ainsi que la santé des Canadiens. Ces mesures se traduiront par une diminution d'ici 2030 de plus de 5 mégatonnes des émissions de gaz à effet de serre ou retrait de 1 300 000 véhicules des routes canadiennes. La ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, est à Madagascar cette semaine. Elle prendra part à la 32e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui aura lieu jusqu'à jeudi. Elle va participer aux travaux de la conférence, rencontrera des partenaires de projets financés par le Canada et va s'entretenir avec des représentants de différentes organisations. La ministre Bibeau se joindra ensuite au premier ministre Justin Trudeau pour prendre part au 16e sommet de la francophonie les 26 et 27 novembre. Ouverture de la conférence AgEx 2016 à l'hôtel Sheraton de Calgary. Les agriculteurs, les conseillers, les universitaires, les organisations, l'industrie et le gouvernement y sont conviés. Au cours des prochains jours, les participants vont partager leur expertise et leur point de vue dans le but d'orienter les agriculteurs canadiens. Le thème du rendez-vous 2016, planification et prospérité, cap sur le succès. Table ronde et discussions de groupe sont à l'agenda. La Société canadienne du sang est à la recherche de gens pour le lancement de la campagne des fêtes pour le don de sang. Les recruteurs de l'organisme sont d'ailleurs déjà au travail et tentent de trouver des façons d'attirer l'attention des gens sur l'importance du don de sang. La société a indiqué dans un communiqué que les sondages révèlent que la principale raison pour laquelle les gens ne donnent pas de sang est que personne n'est au courant d'une telle campagne. La société rappelle avoir besoin de 100 000 nouveaux donneurs d'ici mars 2017 pour maintenir les réserves de sang du pays et répondre aux besoins des patients. Selon la firme Ernst & Young, 48% des entreprises canadiennes sont optimistes à propos du contexte commercial. Le Canada se classe ainsi au quatrième rang au niveau des principales destinations de choix des investissements dans le monde. Ken Brooks, membre de la firme, a dit que c'est encourageant pour l'économie canadienne. Le Canada n'est devancé que par les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Plus de 200 membres de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes se sont rassemblés à Montréal lundi. Le but était de trouver des façons novatrices de réduire les risques et des répercussions des catastrophes. S'exprimant dans un message vidéo, Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a lancé Prévention Inondation, une nouvelle campagne de sensibilisation du public pour accroître les connaissances des Canadiens sur les risques d'inondation. Il s'agissait de la 7e édition de la table ronde. Le Fonds des médias du Canada tient aujourd'hui un événement sur la colline parlementaire à Ottawa. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et ses collègues parlementaires seront présents. Des artistes et artisans de plusieurs productions canadiennes, ainsi que des chefs de file de l'industrie audiovisuelle sont également attendus. L'événement va présenter et célébrer le succès de la télévision et des médias numériques canadiens. Valérie Crichton, présidente du Fonds des médias, a déclaré que l'événement constitue une occasion de rencontrer le talent qui œuvre devant et derrière la caméra. Le secrétaire parlementaire au ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, Terry Duguid, prononcera un discours cet après-midi. Il prendra la parole dans le cadre du Forum des droits de l'enfant « Faire du Canada un meilleur endroit pour les jeunes ». L'événement est prévu à la salle Johnson de l'Université d'Ottawa. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Buffalo 4-2 contre Calgary et Edmonton a blanchi Chicago 5-0. Ce soir, entre autres, la Caroline sera à Toronto et Montréal recevra Ottawa. Dans la NFL, au match du lundi soir, victoire des Raiders d'Oakland 27-20 contre Houston. Il s'agissait du premier match du Monday Night Football présenté à l'extérieur des États-Unis et pour l'occasion, le match avait lieu à Mexico. Le baseball majeur Brett Cecil est maintenant un membre à part entière des Cardinals de Saint-Louis. L'ancien releveur gaucher des Blue Jays a accepté les termes d'un contrat de 4 ans d'une valeur de 30,5 millions de dollars. Et dans la NBA, victoire des Clippers de Los Angeles, 123-115 contre Toronto.
Vous êtes dans l'émission Le Débrief à 16h05 à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Merci d'être à l'écoute. On se tourne vers la météo sans plus tarder. Du côté du campus de l'Université de Victoria, on affiche 9 degrés actuellement avec de la pluie. C'est 9 degrés également dans le port de Victoria et du côté de l'aéroport, pluvieux également avec 10 degrés au mercure. Et pour les prochaines heures, c'est encore de la pluie. Le mercure va descendre à 7 degrés. La probabilité d'averse va se situer autour de 60%. Pluie, c'est vraiment le maître mot au cours des prochains jours. Mercredi 23 novembre, de la pluie, 70% de probabilité d'averse avec un maximum de 9 degrés. Jeudi 24 novembre, 9 degrés encore avec de la pluie. Vendredi 25 novembre, 9 degrés avec de la pluie intermittente, nous dit Environnement Canada. Et ça se poursuit également samedi 26 novembre. Il y a de l'espoir pour dimanche. Le pictogramme qu'affiche le portail météo.gc.ca, c'est un soleil avec un petit nuage. Donc, il y aura peut-être une éclaircie le dimanche 27 novembre. Voilà pour la météo. On a, comme je le disais tout à l'heure, 9 degrés sur Victoria actuellement. On va écouter sans plus tarder le bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre l'ONU qui plaide pour une meilleure gestion de l'eau face aux pénuries. Le point sur les déplacements provoqués par la bataille de Mossoul. L'ONU dénonce la détention de deux journalistes gambiens. Le secteur spatial et la promotion du développement mondial est en dossier. L'appel de Sandra Honoré à respecter les règles du jeu en Haïti après les élections. Sous la présidence du Sénégal, le Conseil de sécurité consacre ce mardi à un débat sur l'eau, la paix et la sécurité. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour une meilleure coopération pour gérer l'eau et éviter les conflits liés à l'utilisation de cette ressource vitale. Se référant au cas du Darfour, de l'Afghanistan ou encore de la Syrie, Ban Ki-moon a souligné combien l'accès à l'eau peut exacerber les tensions. Il a également cité l'exemple du Pérou, où les communautés locales protestent contre l'impact des industries extractives sur les ressources en eau. Le secrétaire général a aussi mis en garde contre les risques de pénurie au cours des prochaines décennies.
D'ici à 2050, au moins un être humain sur 4 vivra dans un pays où le manque d'eau douce est chronique et récurrent. Les changements climatiques ne feront qu'aggraver ces difficultés, notamment dans les bassins communs à plusieurs pays. Il importe particulièrement de coordonner la gestion de l'eau pour ce qui est des plus de 260 cours d'eau internationaux et des aquifères transfrontiers qui sont au moins aussi nombreux. Pour mobiliser une action diplomatique concertée, le président de la Banque mondiale et moi-même avons lancé le groupe de haut niveau sur l'eau. Cette initiative promeut une mise en valeur et une gestion globale et coopérative des ressources en eau et la contribution que le Sénégal y a apportée est capitale.
En Irak, plus de 68 000 personnes ont dû quitter leur foyer à Mossoul depuis le début, il y a 5 semaines, de la vaste offensive pour reprendre cette deuxième ville irakienne des mains de l'État islamique. La majorité de ces déplacés qui fuient les combats et les exactions de Daesh se réfugient dans le gouvernorat de Nineveh. Le point avec Alpha Diallo.
Ce sont des chiffres en deçà des prévisions initiales des organismes humanitaires qui établaient au départ le déplacement de jusqu'à 200 000 personnes après le début de l'offensive de Mossoul. Mais ces données du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU et de l'Organisation internationale pour les migrations montrent tout de même que plus de 68 000 Irakiens ont été déplacés par l'offensive dans cet ancien fief des djihadistes. Selon OCHA, il y a eu considérablement plus de déplacements au cours de la semaine écoulée que les jours précédents. En fait, l'explication est que les combats se déroulent désormais dans le secteur densément peuplé de la ville. Avec cette nouvelle vague de déplacement, les besoins humanitaires sont naturellement très importants pour les familles déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur des camps. Il s'agit de personnes vulnérables des secteurs repris et celles fuyant les violents combats dans la ville de Mossoul. Des déplacés qui se réfugient généralement dans le gouvernorat de Nenoa qui accueille plus de 66 000 des déplacés de Mossoul. Et dans cette province, le district d'Al-Ahmadiyya reste la porte d'entrée des civils fuyant les combats de Mossoul. Par ailleurs, les organismes humanitaires des Nations Unies rappellent la complexité des besoins humanitaires avec des besoins divergents pour les différentes catégories de civils. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
En Gambie, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est préoccupé par le sort de deux journalistes détenus au secret sans aucune accusation portée contre eux. Momodou Sabali, directeur des services de radio et de télévision de la Gambie, et Bakary Fatih, journaliste de la même organisation, ont été arbitrairement arrêtés par l'Agence nationale de renseignement à Banjul le 8 novembre. Et leurs familles et avocats sont sans nouvelles depuis. Une situation d'autant plus préoccupante que des élections présidentielles sont prévues le 1er décembre. André Aori est directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Le fait d'être arrêté sans aucune charges et sans les provisions que prévoit la loi, c'est clair qu'elle ne contribue pas à établir un climat apaisé dans lequel les droits fondamentaux comme les droits à l'expression, les droits à l'opinion, les droits d'aller et venir, d'assemblée, de réunion, etc., qui sont fondamentaux dans un contexte électoral, ça peut effectivement créer un climat pas conforme à des élections apaisées.
Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, accueille cette semaine le premier forum de haut niveau sur l'espace comme moteur du développement durable socio-économique. L'objectif est de stimuler le débat sur le rôle des sciences et des technologies spatiales dans la promotion du développement mondial. On écoute le plaidoyer d'un participant convaincu, le président du Centre national d'études spatiales de la France, Jean-Yves Le Gall.
Les satellites sont vraiment au centre de la lutte contre le changement climatique. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence, pour les premiers, le réchauffement climatique, donc l'augmentation de la température du globe. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'élévation du niveau des océans. C'est très faible, 3,2 mm par an, donc on ne peut le voir qu'avec des techniques interférométriques que seuls les satellites peuvent voir. Et aujourd'hui, eh bien, change de dimension puisque les satellites vont mesurer les concentrations, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça sera le seul moyen finalement de se rendre compte si l'accord de Paris est respecté. Mais même pour les pays, c'est le seul moyen d'appréhender leurs propres émissions de gaz à effet de serre.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Dimanche dernier, 6,1 millions d'électeurs haïtiens se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau président, ainsi qu'un tiers des sénateurs et 25 députés. Ces élections qu'on attendait depuis 2015 étaient prévues le 9 octobre, mais avaient été reportées suite au passage de l'ouragan Matthew qui a ravagé plusieurs régions du pays. Pour faire le point sur le déroulement des élections et les défis à venir, nous avons contacté Sandra Honoré, la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti.
Les élections se sont déroulées dans un calme admirable. Les électeurs sont sortis exprimer leurs choix démocratiques. Toute la machinerie du Conseil électoral provisoire était en branle et je me dois de féliciter non seulement le Conseil électoral provisoire qui a le devoir constitutionnel de la gestion et de l'organisation des élections, mais aussi le gouvernement haïtien qui n'a épargné aucun effort pour faciliter le processus en faisant un travail très cohérent en ce qui concerne la réhabilitation des routes dans les 4 départements concernés et la réhabilitation des écoles utilisées comme centre de vote. La population est sortie voter, le taux de participation ne paraît pas être aussi élevé que l'on aurait espéré, mais tout compte fait, c'était un bel exercice civique pour le peuple haïtien
L'annonce du résultat ne sera pas connue avant plusieurs jours. Avez-vous des préoccupations pendant cette période d'attente? Risque-t-il d'y avoir des tensions?
Le Conseil électoral provisoire, oui, a indiqué qu'il sera en mesure de fournir les résultats préliminaires dans une période de 8 jours. Je sais que le Conseil est en train de travailler d'une manière intense sur le travail de tabulation. Mon appel aux partis politiques, aux candidats et aux partisans des partis politiques, mon appel à la population tout entière est de respecter les règles du jeu selon lesquelles le Conseil électoral provisoire est la seule institution autorisée à proclamer les résultats officiels et de ne rien dire, de ne rien faire pour augmenter les tensions ou les passions en ce qui concerne les résultats. Il est évident que les candidats, selon le processus, ils ont des indications de ce qui aurait été leur performance aux élections, mais je crois que l'intérêt supérieur d'Haïti sera servi si tout le monde agirait avec responsabilité et tranquillité pendant cette période où le résultat proclamé par le Conseil électoral provisoire est attendu.
Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du rôle de la MINUSTAH pendant la tenue et aussi l'organisation de ces élections?
Nous travaillons de concert avec le Conseil électoral provisoire pour un appui technique au Conseil. Notre mandat du Conseil de sécurité est également un mandat pour accompagner le processus politique en Haïti. Le processus électoral est très intimement lié. Les composantes uniformées de la MINUSTAH ont travaillé avec la police nationale d'Haïti pour l'élaboration d'un plan de sécurité électorale.
Et c'est avec Sandra Honoré que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission quotidienne Le Débrief, votre rendez-vous en info à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Il est 16h17. Merci de nous écouter également en rediffusion dans la matinée du 23 novembre. On va passer maintenant aux nouvelles provinciales et je mentionne d'abord que Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles du Canada, a témoigné cette semaine devant le comité sénatorial permanent des langues officielles concernant l'accès aux écoles francophones et aux programmes d'immersion française en Colombie-Britannique. Le commissaire Fraser a notamment souligné l'importance de la petite enfance. Il a parlé d'occasions à ne pas manquer. Les gouvernements provinciaux, a-t-il dit, ont le devoir de réagir adéquatement aux recommandations qui leur sont formulées et aux jugements qui sont rendus. Le commissaire a nommément évoqué le récent jugement Russell en matière d'éducation en français en Colombie-Britannique et a rappelé que la Cour suprême de Colombie-Britannique avait jugé que les droits d'élèves francophones de la province avaient été brimés. Toujours à propos de l'enseignement du français en situation minoritaire au Canada, le commissaire a aussi convenu qu'il était difficile de vérifier si l'argent versé par Ottawa pour l'enseignement du français dans les provinces était bel et bien affecté à l'enseignement du français, comme il se doit. Les différentes associations francophones hors Québec a reconnu Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, estime en effet qu'elles ne reçoivent pas l'intégralité des transferts fédéraux qui sont destinés à l'enseignement du français. On peut en apprendre davantage sur cette intervention du commissaire Fraser en lisant l'article que publie aujourd'hui le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Il y a également une interview de la sénatrice de l'Alberta, Claudette Tardif, que nous avions accueillie en studio cet automne à CILS-FM. Je vous parle maintenant des relations entre les Autochtones et l'ensemble du pays et avec les des gouvernements. Une étude fort intéressante a été rendue publique aujourd'hui. Elle concerne l'ensemble du Canada, mais comporte une dimension britanno-colombienne importante. Donc, je vais vous en faire part. C'est dans la presse canadienne. La main-d'œuvre autochtone pourrait fortement contribuer à l'économie. Le Conseil national de développement économique des autochtones, le CNDEA, affirme que le produit intérieur brut, le PIB, du Canada bénéficierait de 27,7 milliards de dollars additionnels chaque année si les barrières empêchant les autochtones de participer pleinement à l'économie étaient retirées. Le plus récent rapport du groupe, publié cette semaine, indique qu'en équilibrant les possibilités économiques pour les autochtones, le Canada serait plus apte à relever des défis liés à une faible productivité et liés à la pression démographique attribuable à une population vieillissante. Le rapport remarque également que la productivité des peuples autochtones du Canada serait équivalente à celle des allochtones du pays s'ils recevaient la même qualité d'éducation et de formation. Selon le CNDEA, des revenus additionnels de 8,5 milliards pourraient ainsi être gagnés chaque année par la main-d'œuvre autochtone si l'écart dans l'éducation et la formation était comblé. La Colombie-Britannique, par exemple, pourrait bénéficier de revenus additionnels de 1,4 milliard de dollars par année, gagnés par plus de 125 000 travailleurs autochtones, alors que l'Ontario, elle, pourrait récolter 2 milliards de dollars de plus grâce à l'apport de plus de 169 000 travailleurs. Le CNDEA estime que la main-d'œuvre autochtone est sous-utilisée, malgré le fait que la population autochtone soit jeune et en croissance rapide au Canada. La présidente par intérim du conseil, donc du CNDEA, Dawn Madabi Leach, croit que le développement économique pourrait également contribuer aux efforts de réconciliation nationale. Je vous signale en outre cette dépêche parue dans la presse canadienne aujourd'hui. Un accident est survenu à proximité de l'aéroport de Victoria. C'est dans une zone qui est réservée à l'armée, donc un membre d'un escadron héliporté a subi un accident important. Un porte-parole de la base d'Esquimalt a indiqué que l'incident s'était produit en début de semaine. Il s'agit donc de l'escadron héliporté maritime qui est basé à l'aéroport international de Victoria. Donc une enquête a été ouverte à propos de cet accident. Autre fait divers, un avion en direction de Terras qui était parti de Vancouver, c'était un vol WestJet, a dû faire demi-tour et se poser d'urgence. Il a pu se poser et aucun blessé n'a été déploré. Je vous lis le titre de cette dépêche parue dans le portail CBC. WestJet flight bound for Terras, BC lands safely after emergency. Donc le vol a pu se poser normalement. Autrement, le même portail CBC nous signale l'ouverture très prochaine, imminente, des centres de ski les plus importants de la province. Whistler, Blackcomb et Silver Star, sans oublier Sun Peaks, ouvriront dans les prochains jours. C'est mentionné sur le portail de CBC et dans plusieurs autres médias. C'est en effet une dépêche de la presse canadienne. Sinon, notre portail Victoria News, plus près de chez nous, ici dans la grande région de Victoria, nous mentionne l'apparition d'un livre de Colin Antrone. Colin Antrone était le capitaine du Queen of the North, un traversier de BC Ferries qui effectuait la liaison entre Port Hardy et Prince Rupert. Alors ceux qui étaient, ceux parmi nous, parmi les auditeurs qui étaient en Colombie-Britannique en 2006, se souviendront du naufrage de ce navire, le Queen of the North, un traversier au cours duquel deux personnes avaient perdu la vie. Ils se souviennent aussi de la controverse qui s'en était suivie. Ce livre, donc signé par le capitaine Colin Antrone, s'intitule The Queen of the North Disaster, The Captain Woman's Story. C'est un livre qui paraît ces jours-ci. Victoria News a pu interviewer l'auteur qui est aujourd'hui à l'emploi de la garde côtière nationale. Donc c'est dans Victoria News, vicnews.com, et je termine ce bloc provincial avec une nouvelle concernant le beluga de l'aquarium de Vancouver. C'est le dernier beluga vivant de l'aquarium de Vancouver. Cet article paru sur le portail de Radio-Canada nous informe que le mammifère marin va plutôt mal actuellement. L'aquarium de Vancouver s'inquiète toujours pour la santé d'Aurora, un beluga de 29 ans dont la santé semble s'être détériorée. Vous trouverez ça sur le portail de Radio-Canada. Et peut-être que ce sera pour l'Aquarium de Vancouver l'occasion d'entamer une réflexion sur l'opportunité, la pertinence de conserver des mammifères marins dans des endroits si exigus. Il y a eu de grandes controverses ces dernières années à propos des orques du réseau Marineland. Et j'imagine que les belugas ne font pas exception, qu'ils sont très malheureux et subissent très mal leur captivité. Donc, c'est dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui, une dépêche qui est coécrite avec la presse canadienne. On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre Sarah Dufour. C'est une artiste du Lac Saint-Jean. La pièce s'intitule « Chez nous, c'est Skidou ». Alors, vous allez voir, c'est une... c'est une pièce qui est très emportée, très enlevée et qui tranche nettement avec la météo maussade qu'on a actuellement à Victoria. À tout de suite.
Pour aller faire un tour, un vieux 88, un coup de crinque pis c'est tout. Toyant le truc d'illigant, André le pan au vent. N'est pas si son été, ben le poêle est sur le divan. En se levant un matin, il a plus d'idée, on s'était tout plein. Il n'est pas penché de laisser sa bonne femme en dedans. Au chalet, mon oncle Gérard vient de coller une tournée des relais. C'est loin de mon maître, ça promet pour un soir. Le dernier arrivé, il paye la tournée de pied. Ginette derrière le bord, la belle carotte de la cuisine. Gérard paye le fond et la poutine. Mais dans toute l'année, des heures et d'années, la peine sous nos bouchons.
Sarah Dufour dans l'émission Le Débrief à 16h28. Merci de nous écouter en direct ou en rediffusion dans la matinée du 23 novembre. C'est le bloc nouvelle du jour et on va l'occuper entièrement avec le sommet de la francophonie qui s'ouvre dans quelques jours à Madagascar. Un excellent papier paraît sur le site de Radio-Canada International, rcinet.com. www.terrorisme.ca. C'est sous la plume de Paloma Martinez. Ça s'intitule « Terrorisme, crise migratoire et jeunesse au menu du sommet de la francophonie 2016 ». Je ne pourrai pas vous en faire la lecture intégrale. C'est un article qui est très long, très étoffé, avec des vidéos, des photos sur rcinet.ca. Donc, je vous lis quelques passages. Sous le thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone », le sommet de Madagascar aura lieu à partir de samedi prochain dans la ville d'Antananarivo, oui, c'est la capitale malgache, des chefs d'État et de gouvernement, dont le premier ministre Justin Trudeau et près d'une soixantaine de délégations membres de l'Organisation internationale de la francophonie seront réunis. Michaël Jean, qui est la secrétaire générale de l'OIF, vous le savez, se trouve déjà sur place pour présider la 99e session du Conseil permanent de la francophonie, première étape d'une semaine qui culminera avec le sommet. C'est le premier événement du genre pour Michaël Jean en tant que secrétaire général de la francophonie. En interview avec Radio-Canada International, la secrétaire générale de la francophonie a rappelé que les pays membres sont au cœur des dossiers chauds sur la planète, comme c'est le cas par exemple avec la crise migratoire. Nous sommes à la fois des pays de départ, de transit, de destination et d'accueil. Cette question nous traverse de plein front, a déclaré Michaël Jean. Pendant que le Canada mettra à contribution 600 soldats au sein des casques bleus de l'ONU pendant 3 ans, il serait tout indiqué que ceux-ci soient déployés dans les pays francophones, a soutenu Michaël Jean. C'est-à-dire d'une part des troupes qui sont capables de travailler en français, mais aussi en anglais. La moitié des opérations de maintien de la paix se passe dans l'espace francophone, a-t-elle rappelé. Des missions qui seraient assurément risquées, mais la secrétaire générale de l'OIF estime qu'un problème mondial exige une implication de tous les pays. Le sommet de la francophonie qui a lieu tous les 2 ans et qui est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l'OIF. Cette année, outre les questions d'actualité relatives à la situation politique, sécuritaire et économique de la francophonie, les discussions entre chefs d'État et de gouvernement porteront également sur les questions touchant l'environnement, le développement durable et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ce sera aussi l'occasion pour la secrétaire générale de présenter les actions entreprises par l'OIF depuis l'adoption de la feuille de route du sommet de Dakar et plus particulièrement de la nouvelle stratégie économique pour la francophonie. Outre le premier ministre du Canada, le pays est aussi représenté à Madagascar par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Galland, et par la ministre provinciale du développement économique et responsable de la francophonie, Francine Landry. Donc pour le Québec, Monsieur Galland, donc le PM du Nouveau-Brunswick, sera à la même table que les chefs d'État et de gouvernement puisqu'il dirige une province bilingue. C'est une occasion en or de promouvoir les échanges économiques avec sa province auprès des leaders mondiaux, a déclaré Brian Galland. Le premier ministre Galland a souligné que le statut bilingue du Nouveau-Brunswick était particulièrement utile pour attirer des activités internationales d'envergure, comme les Jeux de la francophonie qui auront lieu dans les villes de Moncton et de Dieppe en 2021. Donc l'article se poursuit sur plusieurs paragraphes, comme je vous le disais, c'est agrémenté de photos et de vidéos. C'est sous la plume de la journaliste Paloma Martinez dans le portail rcinet.com. Je reste sur le sujet de ce sommet de la francophonie à Madagascar. J'ai remarqué pour vous un article paru dans le journal français La Croix. C'est signé par la journaliste Marie Verdier. C'est l'envoyée spéciale du journal dans la capitale malgache. Elle écrit un texte sur le statut de la langue française à Madagascar et c'est assez fascinant, vous allez voir. Ça s'intitule « Les vicissitudes de la langue française à Madagascar ». ostracisée après le coup d'État de 2009, l'île de Madagascar a réintégré le giron de l'Organisation internationale de la francophonie et accueille mardi 22 novembre le 16e sommet qui va culminer. En fait, ce sont les technocrates, si vous voulez, qui se rencontrent dans les jours qui viennent et le sommet en tant que tel aura lieu les samedis et dimanches prochains. La langue française continue, la journaliste, a connu bien des vicissitudes sur l'île de Madagascar. Les enseignants du primaire doivent enseigner dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Le français n'est pas seulement une langue étrangère, c'est une langue étrange, a déclaré Liliane Rama-Rossoa, professeure de littérature française à l'université de Tananarive. Elle résume par là le sentiment des Malgaches à l'égard de la langue de Molière, pas seulement en raison du rapport tumultueux avec le parler de l'ancien colon. Le français a certes pleinement les droits de citer dans la presse, dans la rue et à la télévision. Mardi 22 novembre, il est même fortement remis en selle après avoir été suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie suite au coup d'État de 2009. Madagascar accueille le 16e sommet jusqu'au 27 novembre. Les habitants vivent dans un bain linguistique francophone quotidien à Madagascar, confirme la sociolinguiste Dominique Tiana Razafine Drazimba. Pourtant, il y a une grande appréhension à le parler car les gens en ont essentiellement une connaissance livresque. Donc la connaissance du français se limite aux livres. Les bilingues ne représentent qu'une petite minorité de la population et une caste privilégiée. Héritage des volte-face de la politique linguistique, d'une vingtaine d'années de malgachisation malmenée de l'enseignement, de la préférence pour l'anglais du temps de l'ancien président entre 2002 et 2009, le français a connu bien des vicissitudes sur les bancs d'école et aujourd'hui encore, les élèves l'apprennent comme une langue morte. Ça fait penser à certaines situations d'immersion française dans le Canada hors Québec. C'est assez intéressant de lire sur la situation de la langue française à Madagascar. Donc Madagascar, rappelons-le, qui accueille actuellement le 16e sommet de la francophonie. On va refermer ce bloc nouvelle du jour avec une autre pièce musicale. Je vous propose d'entendre la formation québécoise avec podcast, une pièce qui s'intitule « Loup-garou ». On se retrouve dans quelques instants avec le revue de presse des éditoriaux.
Loup-garou, sans pleine lune, coureur sans son départ, buveur sans son comptoir, le soir de semaine. Diable en quarantaine, je viens à toi. Loup-garou, sans pleine lune, me reconnaîtras-tu? Je gagne à être perdu. Camouflage lent. Thank you.
La formation avec podcast dans le débrief à 16h38. Merci de nous écouter en direct ou en rediffusion dans la matinée du 23 novembre. C'est le moment de jeter un petit coup d'œil aux éditoriaux qui ont paru dans la presse francophone au cours des dernières heures. Je commence par un éditorial qu'on retrouve dans le journal La Presse. C'est sous la signature de Paul Journet. Ça s'intitule « Bonnes et mauvaises nouvelles pour la planète ». Il n'y a pas eu de grande avancée à la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, écrit-il, et on n'en attendait pas non plus. Mais la rencontre tenue à Marrakech a tout de même offert de bonnes et de mauvaises nouvelles pour la planète. L'accord de Paris est officiellement entré en vigueur il y a 2 semaines après avoir été ratifié par suffisamment de pays. Le train a donc quitté la gare, écrit Paul Journet dans ce papier. Le soulagement, c'est que malgré l'élection de Donald Trump, tout le monde est resté à bord du train. La mauvaise nouvelle toutefois, c'est que le train avance encore trop lentement. Même si les pays respectaient leurs cibles, on dépasserait la limite fixée par la science, soit une hausse de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pire, plusieurs pays ne réussissent pas à respecter leurs promesses insuffisantes. Ils ne sont même pas à la hauteur de leur manque d'ambition. Le monde doit de toute urgence et radicalement revoir ses ambitions, résume d'ailleurs un nouveau rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement. La bonne nouvelle, c'est que l'accord de Paris avait prévu ce manque de volonté. Il propose donc 2 remèdes dont on a justement discuté à Marrakech, continue Paul Journet dans cet article. Le premier remède, une révision systématique des cibles tous les 5 ans à partir de 2023 pour forcer les signataires à renforcer leur cible. Le second remède, un détecteur à hypocrisie, soit l'obligation pour chaque pays de dévoiler ses réductions de gaz à effet de serre. Les discussions se poursuivent pour savoir comment calculer autant les émissions actuelles que les émissions futures, et surtout pour rendre ces calculs transparents. Cela forcerait, par exemple, le gouvernement Trudeau à clarifier son discours contradictoire. En effet, le gouvernement Trudeau veut construire de nouveaux oléoducs pour acheminer les ressources au marché de façon sécuritaire, dit-il, tout en décarbonisant son économie d'ici 2050 avec une baisse de 80% des GES par rapport au niveau de 2005. De telles promesses, conclut Paul Journet, devraient désormais être prouvées, chiffres à l'appui. Donc ça se poursuit sur deux ou trois autres paragraphes. Je vous encourage à lire cet éditorial intitulé « Bonnes et mauvaises nouvelles pour la planète » sous la plume de Paul Journet. Et très rapidement, je vous mentionne par ailleurs cet édito écrit par Manon Cornelier dans les pages éditoriales du journal Le Devoir. Ça s'intitule « Remparts à bâtir » et ça concerne les élections et la bonne marche des campagnes des campagnes électorales. Les libéraux fédéraux, écrit Manon Cornelier, ont dû être ravis en lisant les propos du directeur général des élections fédérales, Marc Mérand, en début de semaine. Le directeur général des élections fédérales a dit ne rien voir d'illégal dans ces cocktails privés de financement auxquels des ministres fédéraux assistent. Cela n'a rien d'illégal, mais l'éthique exige davantage, y compris des changements aux règles de financement. Donc c'est très bien résumé dans l'attaque de cet édito par l'auteur Manon Cornelier dans les pages du Devoir. Donc je vous laisse aller découvrir ce papier intitulé « Remparts à bâtir » et par remparts, bien sûr, on entend des remparts contre le financement immoral, le financement de zones grises, le financement indu des campagnes électorales par des intérêts, des lobbies, etc. Donc voilà, dans les pages du Devoir. On va se rendre à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais en début d'émission, c'est Nathalie Leduc qu'on retrouve au bout du fil dans quelques instants. Elle nous livre la seconde partie de sa correspondance américaine. 16h43, vous écoutez Le Débrief. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour dans l'émission Le Débrief en fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. J'ai le plaisir de rejoindre l'artiste Nathalie Leduc, une habituée du Débrief qui nous parle d'art et de voyage et de littérature dans l'émission occasionnellement. Nathalie est aux États-Unis et elle nous livre, si vous voulez, le volume 2 de sa correspondance américaine au lendemain de l'élection de Donald Trump. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, lorsque nous nous sommes parlé plus tôt ce mois-ci, tu étais au lendemain de l'élection surprise de Donald Trump du côté de Los Angeles et ton voyage t'a amené au Texas, dans la ville de Houston que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton passé, ton historique, entre guillemets, avec Houston?
Ben, je suis venue à Houston en 1997 pour faire un doctorat en littérature à Rice University.
Oui.
Et puis après, je suis restée, j'ai enseigné le français dans différents endroits, dans différentes institutions. Et puis j'ai aussi fait ma maîtrise en beaux-arts ici à Houston également, à l'Université de Houston.
Alors, dire que tu connais les États-Unis, c'est peu dire. En fait, tu connais bien les États-Unis. Tu as passé plus de 15 ans aux États-Unis. Tu es maintenant domicilié à Victoria.
Oui.
Tu m'as livré les impressions que tu avais pu collecter au lendemain du vote américain. Tu as accompagné un ami au bureau de vote à Los Angeles.
Oui.
Tu as aperçu des manifestations. Tu as parlé à des manifestants. Depuis, la poussière est retombée, Donald Trump a constitué son équipe de transition, comme on l'appelle, et j'imagine que tu as eu des discussions avec des Américains ici et là. Est-ce que tu peux me faire part de quelques impressions?
Oui, ben à Houston, on en parlait un peu moins quand même déjà qu'à Los Angeles, là. Pour diverses raisons, en fait, c'est les gens. Il y a une personne à qui j'ai parlé qui m'a un peu surpris parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps.
Oui.
Et elle a commencé à me parler de quelque chose complètement à l'extérieur, donc qui n'est pas relié aux élections. Et on en est venu en fait à parler des élections à travers cette autre discussion. Et elle me parlait de théories de conspiration, etc. Donc c'était une conversation un peu étrange. Et dans cette conversation, elle disait que les médias aux États-Unis étaient tous contre Trump et que en fait Trump était pas si mauvais que ça. Et bon, elle a commencé à défendre Trump, ce qui m'a beaucoup étonné de cette personne en fait. Mais toujours dans cette perspective là, de théorie de conspiration, mais je crois pas que ça soit la majorité des Américains qui pensent comme elle.
Mm-hmm.
Mais ça a été quelque chose qui m'a un peu surpris. Et oui, j'ai vu aussi parmi d'autres amis, j'ai discuté avec d'autres amis qui étaient il y en a qui étaient très déçus des résultats. Et aussi, on m'a dit qu'ils évitaient souvent de parler des élections avec certains de leurs amis parce qu'ils avaient des points de vue différents et ils voyaient vraiment que les élections avaient divisé le pays en deux, en fait. Là. Ceux qui étaient pour un camp et pour l'autre. Donc, ça a un peu divisé des familles et même des amis, des gens qui étaient amis depuis longtemps. Et maintenant, bon, ils essayent de pas trop en parler pour pas briser leur amitié. Mmh. D'autres échos que j'ai eus, c'est bon, on est allé voir d'autres amis puis ils nous ont dit ah oui, j'ai demandé des nouvelles d'un autre ami que j'ai pas réussi encore à contacter. Je l'ai appelé, on est passé chez lui, il n'a pas répondu à la porte. Bon, je pense qu'il était pas chez lui non plus là, mais on nous a dit après par après que depuis les élections ils se sentaient pas bien puis ils voulaient pas voir
ah ouais.
que ce soit. Donc il y a ce genre de réaction aussi. Et puis il y a de l'autre côté des gens qui que ce soit un ou l'autre camp qui l'ait remporté, ça a pas vraiment, ça fait pas vraiment de différence. Donc il y a aussi les deux là. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui voit ça d'un air tout à fait défaitiste, là. Puis il se dit bon ben on va faire avec ce qu'on a, tu vois. Puis bon, mais il y a quand même à Houston même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens très déçus. Houston a voté à 54% pour les démocrates, oui, et 41% pour les républicains. Donc Houston, c'était bon, même si c'est au Texas et partout ailleurs, mais pas partout ailleurs, mais au Texas ça a voté plutôt républicain.
Oui.
Même dans certains endroits, j'ai regardé la carte et au Texas c'était 90% pour les républicains, même jusqu'à 93%. Mais Houston et Houston, Dallas, San Antonio. Ben San Antonio, je suis pas sûr, j'ai pas vraiment regardé, mais Austin aussi.
Austin, qui est connu pour être un bastion libéral. Austin, qui est connu pour être un bastion libéral, effectivement.
Un
îlot progressiste. Démocrate
aussi. Mais grandes villes au Texas ont voté démocrate. Donc il y a quand même une grande déception dans les villes, là, mais. Mais même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui ont voté républicain. Mm-hmm. Puis, je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui croyaient pas vraiment, qui n'aimaient pas non plus la candidate Hillary Clinton.
Oui.
Et qui auraient préféré avoir Bernie Sanders.
Oui.
Et donc, ils n'ont pas voté démocrate pour cette raison aussi.
Alors,
pas seulement ici, mais à Los Angeles également.
Oui, donc est-ce que ces gens-là auxquels tu as pu parler se sont abstenus de voter ou ils ont carrément...
Ou ont voté pour d'autres partis, ont voté peut-être pour les Verts ou ont annulé leur vote ou n'ont pas voté, oui, je pense que oui.
D'accord. Et effectivement, les Verts avaient une candidate très solide qui s'appelait Jill Stein. Et elle a fait une très bonne campagne. Malheureusement, elle a été ignorée par les grands médias. La commission qui organise les débats ne lui a pas permis en fait de participer, préférant maintenir l'espèce de duopole démocrate-républicain.
Ouais.
Autrement, tu disais que le Texas est un État ultra-républicain, hormis les espaces urbains, les villes.
Ouais.
Est-ce que tu as vu des gens célébrer la victoire de Trump avec des drapeaux ou des autocollants?
Non, mais en fait, moi, je suis arrivée quand même une semaine après les élections ici à Houston.
Oui.
Ça fait déjà une semaine que... ça faisait déjà une semaine que ça s'était passé.
Voilà.
Donc, les gens, je pense, après une semaine, décantent un peu, là. Donc, j'ai pas vu des gens là, complètement célébrer.
Oui.
J'ai vu personne dans les rues. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un petit peu de manifestation.
De joie.
Il y avait eu une petite manifestation, mais je sais pas. C'est juste quelqu'un qui vient de me le dire, avec qui on a mangé. Il nous a dit oui, il y a eu une petite manifestation ici.
Une manif anti-Trump ou une manif pro-Trump? Dans quel sens allait la
semaine? Moi, j'ai l'impression que c'est anti, mais oui. J'ai même pas pensé à poser la question. Mais comme on parlait en même temps des manifestations de Los Angeles, j'ai présumé que c'était aussi des anti. Des manifestations contre Trump. Là.
Peut-être à proximité.
Il y a des gens inquiets. Il y a des gens aux États-Unis qui sont très inquiets. Oui. De ce qui va arriver parce que ils sont d'origine diverse ou même les gens qui sont pas d'origine mais qui sont blancs, je veux dire, ont peur de ce qui va se passer.
Mm-hmm.
Mais je pense personnellement qu'il faut pas oublier que la personne qui est le président gouverne pas tout seul. Et il faut quand même essayer de faire confiance aux autres personnes qui gouvernent avec lui.
Oui.
Mais je sais pas. je sais pas, je suis peut-être trop optimiste, mais je sais pas.
D'accord. Effectivement, ouais. Certaines nominations au sein de l'équipe de transition ont fait des vagues. Ils ont notamment fait circuler une photo de l'équipe de transition sur les médias sociaux. C'était un selfie pris avec un selfie stick, comme on les appelle. Et dans ce selfie, on retrouvait peut-être une centaine de personnes dans l'équipe de transition. Et ce ne sont que des Blancs, uniquement des Blancs, très peu de femmes. Ouais. Et cette photo a suscité une levée de boucliers, évidemment. Donc, c'est un petit peu le portrait qu'on obtient, en tout cas jusqu'à présent, de la part de cette nouvelle équipe qui va prendre la Maison Blanche le 20 janvier prochain. En terminant, Nathalie, je voulais savoir ce que ça te fait de retrouver le Texas, un État où tu as vécu plus de 15 ans, on le disait. Quels sont les sentiments lorsque tu retrouves Houston, les lieux où tu as habité pendant si longtemps?
Je me sens un peu chez moi parce que je connais les rues, je connais les quartiers. Il y a des choses qui changent à chaque fois que je viens.
Oui.
Il y a toujours des nouveaux bâtiments, même en 6 mois, là, ils poussent des choses. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne me rappelle plus. Il y a des endroits qui ferment. Là, on vient juste d'aller voir un ami là, qui avait une espèce de bric-à-brac vraiment immense et il doit déménager ailleurs et puis c'est vraiment ça brise un peu le cœur de voir de voir ce genre de changement là. Il est forcé de déménager là,
ouais.
son bric-à-brac là. Donc ça brise quand même un peu le cœur quand on voit des choses comme ça là. Puis j'entends dire que toutes les propriétés aussi monte en valeur, ce qui fait que les gens doivent payer beaucoup plus en taxes et tout ça. Donc ça fait c'est un peu triste de voir ça. Puis,
et tu parles des artistes qui ont des ateliers.
Ah, pardon?
Tu parles des artistes qui ont des ateliers, des petits commerçants,
Maisons, ah, oui. Des amis qui ont des maisons, toutes les propriétés en général ont beaucoup monté cette dernière année. Là, la valeur des propriétés a beaucoup monté. Donc ça c'est un peu triste de voir des amis qui doivent essayer d'aller chercher un peu plus d'argent juste pour payer leurs taxes.
Est-ce que tu recommandes Houston aux gens qui font du touring, qui traversent le sud des États-Unis en tourisme, en touriste?
Oui.
Pourquoi?
Houston est une ville vraiment super intéressante pour les arts, en fait.
Okay.
Il y a beaucoup de galeries, il y a des musées, il y a des beaux musées.
Oui.
Il y a des belles collections. La Menil Collection, c'est un musée privé où il y a une collection incroyable d'art surréaliste.
Oui.
Il y a un musée des beaux-arts qui est très, très grand. Il y a 2 bâtiments. Il y a un musée d'art contemporain également. Enfin, puis il y a des musées aussi de sciences naturelles, musée de l'Holocauste. Il y a vraiment là, une variété d'endroits là, incroyables pour les touristes. Mais c'est une ville qui est pas nécessairement en première liste quand on veut aller faire du tourisme, on pense pas à Houston, mais c'est vraiment une ville intéressante. Puis il y a des galeries privées aussi, il y a beaucoup d'artistes. Houston c'est bourré d'artistes à Houston.
Ah
c'est incroyable.
Oui.
Ok. Ouais. Ouais.
Donc il faut revoir ces idées là, il faut revoir ces j'ai envie de dire ces préjugés à l'endroit de cette ville, de métropole du Texas. OK. Ben Nathalie, merci beaucoup pour ce partage d'impressions. Volume 2 de ce diptyque, si on veut, sur les lendemains de l'élection américaine. Alors, bon retour à Victoria et au plaisir de se retrouver en studio à CILS-FM.
Merci.
Encore merci à Nathalie Leduc, artiste de Victoria, qu'on retrouvera prochainement au micro du débrief. C'est déjà tout pour le débrief. Merci de nous avoir accompagnés dans ces 60 minutes d'infos à l'antenne de CILS-FM, en direct ou encore en rediffusion. On a actuellement 9 degrés au centre-ville de Victoria. La pluie se poursuit par intermittence en soirée et au cours des prochains jours. C'est Alexis Gagnon au micro sur ces mesures de la pièce. pièce Mercure de la formation JAG. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain, même heure, même fréquence.